Voilà.
Et je reprends l'expression qu'avait dit le Rav, sans cet assurement, rassurement que donne Marchevet à Shuvah, l'oyuchal adam nimso manoach. Parce que ça signifie qu'en réalité, il n'y a pas de manoach. Un des noms du Mashiach, c'est le Menachem. Ne faites aucune implication politique, religieuse. C'est le nom que le Talmud lui donne. Il y a des gens qui ont beaucoup de chance, ils naissent avec ce nom-là. Alors je me dis, « V'ahayim aruchanim lo yuchlu leitpater ba'olam » et ce qui fait que la vie est vivante au niveau spirituel, c'est au pluriel. « Ahayim aruchanim » le mot de « Chayim » est déjà au pluriel. « Lo yuchlu leitpater ba'olam » parce que « Ahayim » j'emploie les termes modernes, « Abiologiim mitpatrim ba'olam » Aval ha'chaim aruchaniim, dit le Rav, lo yuchlu leitpater ba'olam, ne peuvent pas se développer dans le monde. Achush ha'musari, pourquoi? Il y a un point, écoute. Achush ha'musari, le sens moral, tovear me'adam, réclame de l'homme, et atzedek ve'atov et atzlemut. Le sens moral réclame de l'homme le tout de la justice et du bien. La perfection, dans le sens que nous avons vu. Et le Rav va dire tout de suite, et c'est impossible. Alors donc, nous vivons dans une contradiction intérieure qui entraîne le malheur de la conscience. Ça veut dire que nous sommes donnés à un problème tragique qui n'a pas de solution. Parce que le sens moral n'est authentique que s'il réclame l'entièreté du tzedek et du tov, la shlemut du moussar. Et cependant, le Rav va nous dire, et nous en sommes incapables. Donc, il ne peut pas y avoir de manoach. La conscience morale ne peut être qu'une conscience malheureuse. Il y a d'ailleurs une thèse de Jean Val qui a pour titre « La conscience malheureuse chez Hegel ». Il voulait analyser ce problème. Pour Hegel, ça allait de soi que l'homme de la loi, l'homme pour qui la morale c'est la loi, morale, ne peut être que de conscience malheureuse. Et Jean Val indique qu'il y a aussi la conscience bienheureuse. Et c'est le grand conflit dans la culture juive occidentale entre les mitnagdim et les chassidim. Ça touche un peu au problème du cours précédent, si vous vous rappelez. C'est-à-dire que, ou même de l'analyse des quatre formes de la tshuva des chassidim allemands que j'ai signalé, c'est-à-dire que pour un mitnaged authentique, à la limite, la joie morale est suspecte. C'est insolent, vous avez compris. Alors que, d'afka pour un chassid, c'est le contraire. S'il n'y a pas la joie morale, c'est suspect. Imaginez, en monde chassid, un juif qui étudie la Torah et qui n'est pas heureux, c'est suspect. Mais en monde mitnaged, c'est l'inverse. C'est des limites. Hein? Un juif qui étudie la Torah et qui n'est pas hatati habiti, c'est suspect. Vous avez compris. C'est le drame. Si vous relisez un très grand livre de Nietzsche qui s'appelle La naissance de la tragédie, vous trouverez un livre génial de la jeunesse de Nietzsche, et il allait de génie en génie jusqu'au génie suprême, d'ailleurs. Et vous verrez dans son analyse la différence, chez les Grecs, entre l'homme apollonien et l'homme dionysien, une différence très parallèle entre le mitnaged et le chassid dans le sentiment de la vie. Et en particulier, d'ailleurs, sur le problème de la conscience malheureuse ou de la conscience bienheureuse. Vous avez deux sensibilités morales différentes. Celui pour qui c'est évident que la conscience morale doit être une conscience malheureuse, sinon elle est suspecte. Celui qui, pour qui, au contraire, la conscience morale doit être une conscience heureuse, sinon elle est suspecte. Et vous devinez dans quel sens le Rav va s'orienter, précisément par le chidouche qu'il va nous donner, qui se base sur ce que j'ai cité de Maïmonide tout à l'heure. Ça va vous être clair, je ne sais pas déjà, d'ailleurs, très, très rapidement. Vers les mots tamoussarit, Kama rechoka hi me'adam le'akshima va'po'al. Il y a deux choses importantes que je voudrais signaler. Bon, d'abord, le jugement, le fait, cette shlemut ha'moussari, cette perfection morale, hors de quoi le chouch moussari serait inauthentique, serait falsifié, hypocrite, est tellement loin de notre possibilité de l'accomplir en fait. Et en même temps, la deuxième chose, c'est la dernière expression, le'akshima va'po'al, parce que tant qu'elle n'est pas Moukshemet de Poal, c'est de plus en plus suspect. C'est-à-dire, il y a une solution possible de type morale occidentale, puisque c'est impossible d'atteindre, c'est trop loin de nous, cette perfection que le sens moral réclame de nous, on va l'atteindre, mais en intention. Vous devinez là la ligne de la théologie chrétienne, ou en contemplation, vous devinez là la ligne de la philosophie tout court. Mais le Rav dit, les archimas, bepoal, tant que notre personne n'a pas réalisé bepoal, en fait, elle ne peut pas trouver ce menoucha, bitachon, manoir, et donc il évacue toutes ces contrefaçons qui, pour ne pas pouvoir résoudre le problème, se satisfassent de contrefaçons, c'est-à-dire des morales d'intention, que ce soit intellectuelles ou spirituelles. C'est clair, vous comprenez ? On continue. Les kama kocho halash, les chaven ma'asav, et la toha chez l'idée à la tzedek agamour. Je reprends la lecture. Les kama kocho halash. C'est très joli d'ailleurs en hébreu. Kama kocho halash. Et ça se relie à Bepoal qui attendait Bekoah. Et combien, on peut lire ça en hébreu d'ailleurs, et combien sa force d'accomplissement est faible, cette idée d'une force faible est très jolie. Et les Chaven, Mahasa, pour pouvoir orienter ses comportements pratiques, ses actes, est faux. Et à Tohar, vers la pureté de l'idéal de la justesse morale, je n'ai pas voulu dire la justice, parce que ça risquerait d'être la justice juridique, du Tzedek, Agamou, authentique. Cette exigence de la conscience de vérité n'est satisfaite que dans l'entièreté. C'est ce qui définit l'identité de Jacob en tant que patriarche. Vous savez que les trois patriarches ont eu trois bénédictions quant à cette approche de l'entièreté. Abraham, Bakol, Yaakov, Mikol, Yitzhak, Mikol, Yaakov, Kol. Tant qu'on n'atteint pas le Kol d'une vertu quelle qu'elle soit, alors on n'est pas encore Israël. C'est-à-dire, il y a dans cette identité Israël, d'une certaine manière, l'exigence du tout ou rien. Mais ça, c'est l'échec. Si on voit le tout ou rien, à ce niveau de perfection à la grecque dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas avoir tout, alors rien. C'est un des capotages, je ne sais pas si je veux dire, de la conscience juive. De croire qu'il faut le tout dans l'entièreté immédiate, ponctuelle, et que puisqu'on ne l'a pas, alors rien. C'est très occidental, d'ailleurs, comme réaction de cette... problématique du tout ou rien. Le Rav va corriger cela tout de suite. J'espère que vous voyez bien à quel moment de l'analyse nous trouvons. Lorsque Jacob a rencontré Ésaü, et que Jacob, pour essayer d'amadouer Ésaü, lui a envoyé un cadeau, je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui, mais enfin, c'est même pas la peine d'illustrer. Alors Ésaü, grand seigneur, grand prince, lui dit: garde Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Jacob lui répond: prends Yeshli Kol, moi j'ai tout. Ça situe bien la différence entre Jacob et Ésaü. Ésaü, il a un Rav, Jacob, il a tout. La différence, celui qui a beaucoup n'a encore rien, tant qu'il n'a pas tout. Mais comment avoir tout? On sait bien que ce n'est pas possible, alors rien. Je crois qu'il y a la ligne d'explication du fléchissement, de l'effondrement de l'identité juive dans sa problématique contemporaine d'Atiochironi. Tzioni au je sais pas quoi. Okay? Ou bien. Ça c'est nordique, c'est Kierkegaard. Ou bien. Okay? Et d'ailleurs, les rabbins qui s'inspirent de ces Ésaü-là, si je veux dire, sont un peu comme ça. Alors là, avec le Rav, nous allons être en sécurité beaucoup plus hébraïque. Alors je continue. Ve'irishaf elma she'enenu be'yecholto kelal. Et là, c'est une condamnation de la théologie tragique totale. Comment, puisque désirer, aspirer, comme vous avez dit, aspirer à ce qui n'est pas dans son pouvoir du tout. C'est tragique absolu. Je continue. Lazot atshuva hitivait la Adam. Voilà, vous retrouvez Maïmonide. L'azote, pour cette chose-là, pour cela, la tshuva est naturelle à l'homme. C'est la tshuva, ainsi entendu, nous allons le voir, qui va donner une solution à cette impossibilité tragique. Vehi mashlimato. C'est elle qui le rend shalem à chacun de ses niveaux. C'est moi qui ajoute déjà, j'anticipe, à chacun de ces niveaux d'imperfection, elle le rend parfait. Nous allons voir comment. Im ha'adam alul tamid le mirshol, si, dans le sens de bien que, l'homme est donné constamment au trébuchement, mirshol, mazim, mirshol, échec, hein, à l'obstacle qui fait trébucher, okay, et piège, peut-être même plus, liyot pogem batzedek ou bamoussar. Et donc, on voit bien que le hymne du commencement de la phrase a le sens de bien que. Pogem porte atteinte au tzedek et au moussar. Comment traduire ça? Bon, à la justice et à la morale, c'est pas exact, mais c'est comme ça. Enze pogem et shlemuto. Ça veut dire, lorsque. Quand. Comment on dit en français? Quand bien même. Okay, il porte atteinte. À son idéal d'entièreté morale, il reste dans sa perfection s'il est porté par Marchevet Hatshuva. Parce que Marchevet Hatshuva réintègre dans l'instant même de la faute cette chute qui était inévitable quant à sa nature. Ça peut être dit autrement, mais j'espère que l'idée est suffisamment claire. Et je reviendrai d'ailleurs sur la notion de base. Je reprends la phrase. Im ha'adam alul tamid le mirshol, liot pogem batzedek ou bamoussar, enze pogem et shlemuto. Vous comprenez comment on peut être à la fois conscient de ses limites au moment même de la faute et en joie d'être. C'est une chassidoute très profonde qu'il y a là. Parce que une chassidoute qui tient compte de l'exigence de la hitnagdout, des mitnayim. C'est pas une chassidoute de la déréliction. C'est pas une chassidoute d'un camp naturiste, fût-ce le club méditerranéen ou autre. Okay? C'est une chassidoute qui tient compte de façon très précise et minutieuse de ce que Mitnagdim enseigne. Voici quelle est la perfection morale et sache à quel point tu en es incapable. Et cependant, grâce à la Shuvah, nous dit le Rav, qui fait le pont, si j'ose dire, entre ces deux mondes, il n'y a aucune atteinte à cette Shlemut dans le sens hébreu. S'il n'y a pas, si on n'est pas porté par le marché de la Shuvah, alors tout est bon. Je vais essayer de retrouver dans ma mémoire comment j'ai reçu cet enseignement d'un très grand maître qui a été un des fondateurs du Gush Etzion, qui a quitté Israël après une querelle avec Ben Gurion lui-même, qui était un grand talmudiste, qui s'appelait le Rav Abraham Epstein, Zichrono Livracha. Je ne sais pas si Jean de Strasbourg doit se rappeler de lui. Et il nous avait enseigné un midrash des deux manières, à la manière chassid et à la manière mitnagdim. À propos de la faute. David va m'aider à retrouver les références. Le Midrash dit ceci. vous savez que dans le Maaseh Bereshit, dans le récit du commencement, il y a ce principe qui apparaît, sauf Maaseh Bemachashava Trina. La fin de l'œuvre, c'était le début du projet. C'est-à-dire, le début du projet ne va être réalisé qu'à la fin de l'œuvre. Et donc, l'homme est la dernière créature. Alors, sur ce principe que l'homme est la dernière créature, le Midrash dit « Zaha omrimlo, s'il mérite, on lui dit, tu es la couronne du monde. » Et « Lo zaha, s'il ne mérite pas, on lui dit, yetush kadmar. » Vous connaissez ce Midrash? C'est-à-dire que Dieu s'est occupé à créer un insecte, une fourmi, avant tout. C'est-à-dire, s'il a mérité, ça c'est la lecture mitnaget. S'il a mérité, président du consistoire, Jibus, la couronne du monde. Non. Dignitaire. S'il n'a pas mérité, on dit qu'est-ce que tu es? Rien du tout, un vermisseau face avant toi. Ça, c'est la lecture donc de la dignité mitnagen, okay? Morale classique. La chassidoute doit expliquer ça comme ça. S'il a mérité, on va lui dire gare-toi, le monde dépend de toi. Tu es la couronne du monde, aie peur. Vous voyez qu'on a changé de monde, okay? S'il n'a pas mérité, il va tomber dans le désespoir. Oui, qu'est-ce que tu as gâché? Dieu s'est occupé de créer la fourmi avant toi. Tu n'as rien gâché du tout. Recommence. Vous voyez donc la différence de perspective du même midrash. Il est évident qu'il y a les deux dimensions, bien entendu. Mais suivant qu'on met l'accent de ce côté ou de l'autre, on a une vision de la destinée très différente. Le Rav ici nous donne la clé du problème, la tshuva. Ça veut dire que quel que soit le niveau de gravité de l'imperfection qui est conséquence de la faute, on reste dans l'intégrité absolue du bonheur d'être si la conduite de Tshuva et anime le comportement. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je continue. Il reste pas longtemps d'ailleurs pour ce texte. Je voulais à partir de Im Adam Alul Tamid le Mirshol, si bien que l'homme est constamment donné, conditionné au piège, comme nous l'avons vu, Liot Pogem Batsedekuva Moussa, porter atteinte à la justice et à la moralité, Enze Pogem et Shlemuto, ça n'atteint en rien sa perfection dans le sens hébreu, donc son intégrité. Mais Acha, chez Ikar Yesod Ashlemut, par le fait que l'essentiel du fondement de cette intégrité, chez l'eau, de lui, l'homme, hi a aliga, va chefetz a kavua et la shlemo. C'est la sheifa, nous avons dit, l'aspiration et le désir fixé en lui. Ça veut dire permanent, plus que permanent. Kavua. Vas-y, kavua. Je cherche quelque chose de plus. Plus que ça. Kavua. Ça veut dire chez l'eau, yachol azouz. Kavua. Vous avez compris en hébreu, c'est l'essentiel. Non, c'est pas inné. Et l'Ashlemut a cette intégrité. Immuable, ça va bien déjà. Okay? Immuable. Vous avez, à propos du mot de chépet, me revient en mémoire un midrash très important sur le premier psaume. Ashre Aish, Ashre Lohalar Ba'asat Reshaim. Continuez avec moi. Ou Derech Hataim Lohamad, ou Moshav Nitzim Lohyashav. Kiim Betorat Hashem Hepso, ou Torato Yege Yomem Varaïla. Bon, heureux l'homme qui ne s'est pas compromis avec tous les niveaux de la faute, je paraphrase le premier verset, qui met betorat Hashem chepzo, il met son chefet, son désir, dans la Torah de Hashem, ou torato, et dans sa Torah, le pshat serait torato sur Hashem, il médite jour et nuit. Le Midrash dit que s'il met son chefet dans Torah Hashem inatteignable, si le chefet est authentique, alors, Torah Hashem devient Torato. Ça veut dire, la Torah telle qui peut l'atteindre, c'est sa Torah Hashem. Et elle s'appelle Torah. J'ai compris là. C'est très relié à ce même principe. La Chévetazé, Houhou Yesod Hatshuva, est-ce que j'ai été clair dans ce Midrash? C'est-à-dire, a priori, on pourrait dire, Torah, c'est un enseignement du Chafetz Chaim que le Rav Tzioudah, Zichron et Bracha, avait l'habitude, le fils du Rav, avait l'habitude de citer. Le verset dit, Torah Hashem Tmima. La Torah de Hashem, Torah Hashem, elle est mima, pure, intègre. Il avait l'habitude de dire, Ish lo nagarba, personne ne l'a touchée, elle est pure. Okay? Et qui peut arriver là? Il ajoutait d'ailleurs sur la fin du verset, Meshivat Nafesh. Alors il disait, Meshivat Nafesh, ça veut dire elle rend l'âme, elle rend la personne. Imaginez quelqu'un qui est tombé en syncope, et puis la Torah, le révulsif d'une âme qui a pris froid, elle. Alors, j'avais dû dire, si elle n'est pas Meshivat Nafesh, c'est pas Torah Hashem. C'est très important. Je reprends le verset, Torah Hashem Tumima Meshivat Nafesh. Si elle n'est pas Meshivat Nafesh, c'est pas Torah Hashem. Du Rati Yehuda, qui cite le Chafetz Chaim. Okay? Alors, je reviens. Chafetz Chaim, vous voyez comment ça marche. La Chafetz Hazé, vous, Yesod Hatshuva, Shehi Menatzachat Tamid Al Darko Bachayim ou Mashlimato Be'emet. Voilà, j'espère que je suis arrivé un peu à faire comprendre la notion essentielle, c'est cela. C'est que la tshuva est un comportement qui nous est donné de telle sorte de réintégrer notre bonne santé de créature, quels que soient les degrés des progrès ou des régrès, je ne sais pas comment dire, des régressions auxquelles on se trouve. Ce qui restitue simultanément la conscience aiguë et claire de la distance entre la réalité et l'idéal, et en même temps le bonheur d'être à chaque fois. Et alors, nous avons là une expression assez extraordinairement précise, d'ailleurs, de ce que déjà disait Maïmonide, c'est que la tshuva est un mouvement naturel de la conscience, le rav va beaucoup plus profond, pas seulement de la conscience morale qui est sensible aux valeurs, de la conscience d'être, de la conscience de créature comme telle. Il décèle d'ailleurs dans d'autres chapitres de ce livre que les mondes, tout entier, j'allais dire le monde entier, mais les mondes sont en processus de tshuva. Il y a une dimension métaphysique de la tshuva. Comme si la création, c'était de mettre le monde loin de Dieu et que le premier commandement qui enfermerait tous les autres, c'est de lui dire « reviens ». Et à chaque degré de ce revenir, il y a à la fois la conscience aiguë de l'éloignement qu'il y a encore à combler, et en même temps, de la dignité d'être déjà arrivé là où on est arrivé. Et dans le cas de la régression, vous retrouvez toutes les halakhot concernant la Shoah que le Talmud avait enseigné, qui est que si la conduite du repentir apparaît dans la conscience dès le moment de la faute, dès ce moment-là, on est déjà pardonné. Et que si on a laissé passer du temps, le revenir est un plus long voyage. Alors que si c'est le hirur de la Shoah, c'est faire. Et toutes les halakhot qui vont dans ce sens-là, et les degrés, bien entendu, la difficulté à la Shoah. Il me reste une phrase sur ce problème, sur ce texte, c'est donc à propos de Maïmonide, c'est ceci. Selon Maïmonide, si une conscience a été sensible à une valeur, on peut lui faire confiance qu'elle ne se laissera pas tranquille, manoir, jusqu'à revenir à cette valeur. Donc on n'a pas à commander au tzaddik de faire tshuva. S'il a été soumis à la loi, il reviendra tout seul. Et donc, il ne peut pas y avoir, c'est très haut comme morale, c'est très aristocrate. Ça veut dire, si aristocrate, c'est pas joli, élitiste, c'est pas non plus très joli. Très noble, voilà le mot. Atsili. Si, une fois, une conscience était sensible à une valeur, alors on sait qu'elle reviendra. La tshuva n'est pas un commandement, c'est une promesse, dit Maïmonide. Et là, il tashuv, ça veut dire tu reviendras, je te promets. Il a suffi d'avoir accepté la loi pour qu'on puisse être assuré que, quelle que soit la faute, le retour sera. Je conclurai sur ce point que c'est le même enseignement à propos du retour en Israël. Ça veut dire que chez Maïmonide, on ne trouve pas de commandement que c'est une mitzvah de revenir en Israël pour un juif. Alors, vous avez beaucoup de juifs, Tane Amana, je ne sais pas comment on les appelle, ça doit être Tane Amana palestinaïde, Tane Amana, c'est ça, qui sont de peu de foi, je ne sais pas comment dire, qui attendent d'avoir un livre de la loi où il y a une mitzvah de revenir en Israël. Et le Rav Tzvi Yehuda a expliqué ça comme ça. Est-ce qu'il te faut un commandement pour revenir chez ta mère? Ça veut dire, s'il te faut un commandement, c'est que ce n'est pas ta mère. C'est clair, c'est énorme, ça veut dire que c'est pire. Le fait que dans le code de Maïmonide, il n'y ait pas de mitzvah pour revenir en Israël, c'est beaucoup plus grave que si... Que, je me suis mal exprimé, mais vous avez compris l'idée. Ça veut dire quoi? Il te faudrait une mitzvah pour revenir en Israël? Ça veut dire que tu n'es pas dans le coup, ça veut dire que ça ne te concerne pas. C'est une promesse. Dieu dit à Israël, tu reviendras. Mais quand tu reviens, reviens vers moi. Tu ne vas pas ailleurs. Bon. Encore une fois, c'est l'aspect d'obligation est dans la cour. Im tashuv, Israël, là, il tashuv. Ça veut dire qu'il y a un comportement naturel. Alors on trouve cela dans les deux niveaux. Dans le code de Maïmonide, il n'y a pas une mitzvah qu'il faut faire tshuva, ça on étudiera demain. Quand tu fais tshuva, voilà la mitzvah, la veut. Deuxièmement, pour Israël, il n'y a pas de mitzvah de revenir en Israël. Voilà ce que je voulais dire, mais je veux le dire quand même un peu clairement. Nous avons beaucoup de juifs pieux, je n'ose pas dire religieux, parce qu'en principe tout juif est religieux, mais puisque tout juif est juif. Mais regardez dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire juif. Et alors, ils disent, puisqu'il n'y a pas de commandement, c'est que ce n'est pas une mitzvah. Top. Et alors, ce que je voulais faire comprendre, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire, pour Maïmonide, celui qui réclamerait une mitzvah pour revenir n'est même pas dans le cas de s'appeler Israël. Ça ne le concerne plus, s'il lui faut une mitzvah pour ça. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Bien. Et voilà donc pour le premier test.